Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. C'est un morceau de tissu que nous serons nombreux à porter cet été. Au bord de la plage, d'un lac, d'une rivière ou à la piscine, c'est le symbole des vacances d'été, de la détente et de la légèreté, du temps où l'on bronze de façon indolente après une année de labeur, le maillot de bain. Vous le verrez ce matin, son histoire n'a rien de frivole ni d'anecdotique. Ce vêtement a contribué au découvrement des corps et à l'émancipation des femmes. Des robes de bain en laine porté au milieu du 19e siècle, au bikini contemporain. Mais puisque le maillot a contribué à l'exposition des corps, il a également imposé des normes, les normes d'un corps svelte, ferme, qui tend au zéro défaut. On le sait, l'épreuve du maillot nous inflige des régimes et beaucoup de sports pour arborer la plus belle silhouette possible, avec un idéal souvent éloigné de la réalité. Vous verrez ce matin ce que le maillot raconte de nous, de notre rapport au corps et des injonctions de notre société. Nous vous aiderons également à choisir le meilleur maillot en fonction de votre morphologie, et s'il faut vraiment s'infliger la perte de 3 à 4 kilos pour entrer dans le maillot de ses rêves. J'attends toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Dites-nous par exemple si le port du maillot est une épreuve, car vous ressentez des complexes à exposer votre corps qui ne correspond pas toujours aux normes en vigueur. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Les promesses de l'été, il faut mettre en première place celle des tenues de plage. Dans le cadre très parisien de la piscine du Claridge, Réard, avec des modèles comme celui-ci, où rien n'est oublié, pas même la radio, nous découvre un univers marin assez fantaisiste où le chapeau antenne fait volontiers rêver de toutes les ondes. Sexapil est un maillot deux pièces qu'on dira très ouvert. Il n'est pas douteux qu'entre les deux pièces revenues à la mode et le maillot d'une seule pièce volontiers illustré, l'imagination vagabonde trouvera son compte. Un agréable été en perspective.
Regard très masculin sur des maillots de bain féminins, on est en 1956. Bonjour Audrey Millet, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, chercheuse à l'université d'Oslo en Norvège, et vous publiez un livre passionnant à la plume fluide et érudite, Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps aux éditions Les Pérégrines, un ouvrage qu'un éminent historien comme Georges Vigarello n'aurait pas renié. Votre livre, c'est le type de sujet a priori frivole, voire superficiel, mais qui au contraire raconte énormément de choses sur nos sociétés avec beaucoup de profondeur.
Oui, alors ce petit maillot de bain, je suis allée le chercher dans un dressing d'été hein, ou un dressing de piscine. On le porte très peu de fois en fait durant l'année. Et puis en fait, il fait 250 pages maintenant. Ouais.
Vous montrez que la question du maillot de bain est également une question politique. Hein. L'une des thèses de votre livre, c'est que le maillot de bain contrôle le corps des femmes.
Oui, absolument. Alors déjà, on a mis beaucoup de temps, hein, les femmes, à avoir ce maillot de bain. La société, évidemment, les mœurs se sont modifiées, les sciences médicales. Mais dès qu'il est apparu, dès qu'il s'est un petit peu rétréci, très rapidement, hein, en 30 ans, eh bien, de nouvelles injonctions sont tombées sur le corps des femmes et nous sommes en fait seulement en 1900.
Et vous montrez comment le corps féminin a été apprécié et déprécié avec ce morceau de tissu qu'est le maillot de bain.
Oui, lorsque les femmes ont pu mettre un maillot de bain, on a enlevé le corset à ce moment-là. Et les industriels ont vu un nouveau marché arriver et ont dit aux femmes, bon, ce naturel est bien laid, il va falloir tout redresser. Mmh. Donc c'est la valse des crèmes amincissantes, des rouleaux, vous savez, pour palper la cellulite.
Palpé et aussi, roulé.
Oui, le palpé roulé. Et cette petite mallette que vous pouvez acheter en pharmacie à Paris à 25 francs, qui vous fournit les seringues pour vous piquer vous-même vos varices.
Alors aujourd'hui, la question du burkini dans l'actualité montre que la question du maillot est très politique. Et ce burkini qui résonne avec les pudiques tenues de plage de l'ère victorienne.
Oui, absolument. Le burkini ressemble énormément à ces maillots en laine, manches longues, pantalons. Mais imaginez, vous allez dans l'eau avec un maillot en laine. En fait, il y a deux personnes qui vous amènent dans l'eau et qui vous ramènent sur le sable. C'est pas très pratique quand même pour nager.
Votre livre montre ce balancement des lourdes robes de bain en laine, donc au milieu du 19e siècle, à la mode des seins nus des années 1960-70.
Oui, et entre deux, on a une merveilleuse période du deux-pièces, de l'entre-deux-guerres. Un deux-pièces avec une culotte haute qui cache le nombril, mais déjà les femmes se mettent le ventre sur le sable, dégrafent leur soutien-gorge, leur haut de maillot derrière pour avoir le dos bronzé, et c'est la naissance sens de la robe d'eau nue pour les soirées.
Et au cours de l'histoire, le maillot de bain est sans doute le vêtement le plus accusé de futilité, d'impudeur et de frivolité.
C'est un peu vrai aussi dans un sens, puisqu'on va sur la plage, on mange une crème glacée ou un beignet bien trop sucré, évidemment. Mais cette semaine de vacances, si elle est disponible, elle est là pour le bonheur. Oui, elle est là pour un peu de futilité, elle est là pour oublier les 51 autres semaines de l'année. Donc oui, pourquoi pas, mais pas si futile, parce qu'il faut aussi se dénuder. Donc sur une plage finalement qui est une sphère public et assez égalitaire quand même entre les hommes et les femmes.
Bonjour Isabelle Thomas.
Bonjour Ali.
Ancienne journaliste, vous êtes styliste personnelle, experte en image de soi. Vous aidez vos clients et clientes à trouver leur style et vous avez publié Mon dressing idéal chez Solar. Vous nous aiderez tout à l'heure à choisir le meilleur maillot de bain en fonction de notre morphologie. Quelle est la tendance cette année pour les maillots féminins et les maillots masculins?
Alors cette année, on voit pas mal de maillots qui nous empêchent de bronzer et qui nous empêchent de nager. Alors il y a des.
C'est très utile.
Oui. Alors c'est
si
des...
ça nous empêche de nager, que c'est paradoxal.
Aussi des maillots pour se montrer, pour se, pour parader sur la plage ou au bord de la piscine. Il y a beaucoup de maillots en crochet. Alors ça rejoint un peu le fameux maillot en laine qui a déjà essayé d'aller dans l'eau et surtout de ressortir de l'eau avec un crochet, un morceau de crochet qui dégouline autour de soi et qui pendouille partout. Il y a aussi beaucoup de maillots à découpe, des découpes asymétriques. Des jeux de lanières. Alors quand on bronze, quand on veut bronzer avec des lanières partout, on se retrouve avec des tas de, avec des dessins sur soi. Ça peut avoir un effet tatouage, pourquoi pas. Donc c'est des maillots très savants qui remettent un peu le, qui remettent le goût du maillot, de trouver son maillot, le maillot à la mode, au goût du jour. Mais bien sûr, on trouve encore tous ces maillots, ces petits rectangles, les maillots une pièce.
Et puis on voit la montée en puissance des préoccupations liées à la santé.
Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi pas mal de maillots anti-UV. Alors, bon, anti-UV sur des zones du corps qui peuvent être délicates et concernées. Il y a aussi des maillots qui sont, alors, un rapport à la santé, qui sont fabriqués dans des matières responsables, qui n'agressent pas la peau. Et puis des maillots durables, qui sont des maillots upcyclés, qui peuvent être faits avec des filets de pêche.
Audrey Millet, sur les préoccupations environnementales autour du maillot de bain.
C'est tout à fait essentiel. Vous savez, dès que vous rentrez dans un magasin, même de sport, il y a une odeur, ça sent le neuf, comme on disait quand j'étais jeune. Bon, c'est pas le neuf. Ça sent le plastique et les produits toxiques, évidemment. Il faut regarder, quand même. Aujourd'hui, on le sait très bien, on a vu les rapports du GIEC. On doit se sentir concerné. C'est notre planète et c'est celle des futures générations. Il faut regarder si, par exemple, le maillot est recyclé. Mais il y a également des matières qui sont beaucoup plus viables que toutes les matières plastique spandex.
Par exemple.
Alors, vous avez beaucoup de matières naturelles maintenant, mais on a d'autres problèmes parce que on ne veut pas quitter notre confort. Et effectivement, Isabelle parlait de ce maillot en crochet, mais on veut maintenant un maillot qui sèche vite, un maillot aussi qui gaine. Donc ça, c'est la fameuse injonction des industriels. Il va falloir trouver un équilibre, mais au moins déjà y réfléchir cet été. Bien acheter son maillot.
Alors le problème avec le maillot de bain, Audrey Millet, c'est qu'il donne des informations corporelles immédiates qu'il est souvent difficile à cacher. Le maillot de bain montre, hélas, que la perfection n'existe pas.
Oui, le maillot de bain indique que nous avons tous un corps particulier, individuel, spécifique. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en réalité. Ça prouve qu'on est tous différents et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. La perfection, c'est pas un filtre Instagram. On est là et puis on est là... sur la plage, sur la serviette de plage, sur son transat, avec les enfants, en train de faire un pâté de sable, on n'en fait pas souvent dans l'année, il faut profiter de ce bonheur à 100% et ne pas penser à sa cellulite.
On va essayer. Bonjour Jean-Didier Urbain, bienvenue.
Bonjour, Bonjour Ali.
Vous êtes sociologue, ethnologue, vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Descartes et vous avez écrit un classique publié chez Payot, c'est Sur la plage. La plage, c'est un théâtre et le maillot de bain, son costume, un costume qui en dit long sur nous et sur notre société.
C'est même l'histoire d'un long combat, si vous voulez. Moi, le point de départ, c'est quand même cette énigme qui consistait à déjà observer qu'entre 25 et 30 millions d'individus se regroupent entre juillet et août sur 4% du territoire national en bord de mer, qui sont tous effectivement déshabillés à des titres divers, à des degrés divers, et que, au fond, c'était la raison de ce rassemblement, de cet exhibitionnisme collectif, je dirais, avec ses voyeurs et ses exhibitionnistes, bien sûr. D'ailleurs, un des classiques de la plage, c'est la construction de la promenade qui permet aux habillés de regarder les déshabillés. Enfin, aucune station balnéaire ne peut prétendre à ce statut si elle n'a pas sa promenade faite pour cela. Et puis, effectivement, le long combat, parce que vous avez évoqué les historiens, etc. Alain Corbin a écrit notamment un ouvrage formidable qui s'appelle « Le territoire du vide » où il montre comment la pudeur est remontée en puissance dans la première moitié du 19e siècle, elle s'est même très durcie jusqu'au 1860, et à partir de là s'engage effectivement autour du bain de mer, mais du bain en terme aussi, du bain de rivière, un combat pour ou contre la libération du corps, au fond, à des fins notamment thérapeutiques. C'est d'abord par la médicalisation, par l'hygiène, par la découverte des bienfaits du soleil que se pose cette question. Vous savez, le soleil était considéré comme négatif. C'est à la fin du 19e, au début du 20e en Suisse qu'on introduit les solariums dans les sanatoriums. Et puis que finalement, on va progressivement laisser le corps se bronzer parce que jusqu'à présent, c'était soit une stigmatisation sociale, le bronzé c'est le travailleur de l'extérieur, c'est le pêcheur, c'est l'agriculteur, c'est le maçon, donc c'est un marqueur social dévalorisant. Et même chez Michelet, on trouve que le bronzage, ça donne un teint africain. Donc vous voyez, c'est même une stigmatisation ethnique qui faisait que le bronzage n'avait pas bonne presse. Avant d'en devenir à la mythologie, je dirais, du changement de peau que serait le bronzage, donc de résurrection, il a fallu que pas mal d'eau coule sous les ponts. Et on y est arrivé au fil, d'ailleurs, d'une culture du textile balnéaire qui a vu ce textile se réduire de plus en plus, se faire transparent. Il a fallu lutter contre tous les obstacles, hein, puisque vous parliez justement de ce que révèle le maillot. Bah, le maillot mouillé moule, hein, et donc il a fallu faire passer toutes ces accidents, je dirais, visuels, comme normaux, à coup de petites progressions, parce que quand on fait l'histoire des stations balnéaires, on voit que les arrêtés imposant les épaulettes, imposant la jupette, imposant le bouffant pour voiler les formes, ou le fermé, ou le long. Bon, bah, face à cela, il a fallu que le moulant s'impose, que l'ouvert s'impose, que le transparent s'impose, que le court s'impose. Vous savez, c'est cette histoire célèbre autour de la rayure sur les maillots de bain. Je crois que c'est Michel Pastoureau qui en avait parlé le premier. Au fond, le maillot de bain rayé verticalement, vous savez, c'est le compromis trouvé entre les hygiénistes et les moralistes. Les hygiénistes étaient pour une couleur claire, donc le blanc, mais le blanc une fois mouillé est transparent. Les hygiénistes étaient pour une couleur sombre parce qu'une fois mouillé, il reste opaque. Et donc on a inventé au fond une esthétique de la palissade, hein, avec une rayure blanche, une rayure noire ou bleue, une rayure blanche, etc. Avec, vous pourrez le remarquer, le fait que les rayures sombres passent généralement sur la poitrine et sur le pubis afin de censurer ce qu'on ne saurait voir.
Audrey Millet.
Oui, alors à la fin du 19e siècle, on a également tout un mouvement féministe qui s'avère être planétaire, et ça me semble aussi très important, avec cet apport des sciences médicales, qui explique que oui, l'eau lave, l'eau n'est pas mauvaise, oui, on peut continuer à se précipiter là maintenant vers le littoral, on y va, et le fameux soleil qui est bon pour le moral. C'est féministe, alors il n'y a pas que les suffragettes, il n'y a pas que anglaises, il n'y a pas que les françaises, on les retrouve aussi au Brésil, on les retrouve également en Iran. On a véritablement tout un mouvement de femmes qui veulent aller travailler, qui veulent que leurs filles soient éduquées, puissent aller à l'école et qui participent à une libération des mœurs.
Alors, il nous paraît aujourd'hui naturel d'aller nager à la plage ou à la piscine, mais si on remonte à l'Antiquité sous nos contrées, le rapport à l'eau était radicalement différent. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il existe des correspondances entre les mythologies antiques autour de l'eau et la femme. Comme la mer et les océans, les femmes sont incontrôlables.
Les femmes sont incontrôlables, vous le voyez bien, sur le plateau, elles sont des séductrices, perfides, bien entendu. Ouais. Alors, effectivement, quand on lit les Métamorphoses d'Ovide, moi j'ai été particulièrement, presque tourmentée. À chaque fois qu'une femme approche une source ou un plan d'eau, elle a un problème. Harcèlement, viol. Finalement, lorsque Narcisse, qui lui est un homme, se voit, il reste également bloqué, happé par son propre reflet. Cette eau aussi, on ne la maîtrise pas. Oui. Lorsque les marins naviguent, lorsqu'ils montent sur les bateaux, en fait, les bateaux peuvent se fracasser contre des falaises. On retrouve les corps des marins gisant sur la plage. Et bien entendu, on a tous ces mythes napolitains autour de l'eau où, bon, il faut bien le dire, c'était pas très propre, il y avait des miasses. Mais il y a également le génie romain. Mmh. Le génie romain, celui qui maîtrise l'eau, maîtrise le monde. Et les aqueducs et les égouts à Rome, c'est très très tôt. Ce qu'on verra ensuite, il faudra attendre le 19e siècle quand même.
Oui, et nos sociétés ont longtemps peur de l'eau. Il faudra attendre donc ce 19e siècle pour qu'on associe l'eau à l'hygiène. Et c'est peut-être l'épidémie de choléra dans les années 1830 qui a contribué à changer les choses.
Oui, absolument. Les épidémies de choléra donc, sont tout à fait dramatiques. Et lorsque le choléra arrive, on a toujours cette peur ancestrale, pluriséculaire, c'est la peste. Cette fameuse peste noire qui a déferlé en Europe et qui a tué véritablement des millions de personnes. Eh bien, en fait, à Paris, très très rapidement, mais vraiment très rapidement, comme quoi les pouvoirs publics peuvent être très rapides, on installe des fontaines partout dans Paris et on se rend compte qu'effectivement, les épidémies reculent. Et ce rapport à l'eau est très très important. Et ensuite, on va installer, vous savez, des bains petit à petit dans Paris. Et par exemple, les couturières vont aller se baigner, certaines fois quand c'est trop cher, à deux. Mais on va également installer des piscines et petit à petit se promener près de la Seine et profiter de ces moments.
Jean-Didier Urbain, la plage moderne telle que nous la connaissons, naît dans les années 1830-40 grâce à la haute société britannique notamment.
Que c'est essentiellement effectivement par la médicalisation du bain de mer que la plage est relancée en quelque sorte, notamment après la publication au siècle précédent d'un docteur anglais, Russell, sur le bienfait de la mer sur les glandes, qui va remotiver en quelque sorte et rejustifier le bain de mer. Mais cela dit, quand j'écoutais madame, il y a plein de choses, effectivement, il y a cet enjeu autour du corps de la femme qui est là au centre. Il y a aussi cet enjeu qui est que nous sommes passés quand même, et ça fait partie de l'histoire du maillot de bain, subrepticement d'une culture du bain à une culture de la nage, qui n'est pas du tout la même chose. La nage, c'est la découverte d'un état d'apesanteur naturel, une sorte de shoot naturel, si vous voulez, que le baigneur n'a pas. Le baigneur est quelqu'un de terrifié, qui reste fondamentalement terrestre, qui n'a qu'une peur, c'est la noyade. Le péril de submersion, comme l'on disait, et que ça fait partie évidemment du maillot de bain parce qu'on va se mettre à nager, et que le maillot de bain va du coup perdre en textile parce qu'il faut que les mouvements soient plus larges. Paul Morand, dans les années 30, dit qu'effectivement il fait encore scandale sur la Côte d'Azur parce qu'il a un maillot moulant qui est un maillot de sportif. Et que ça c'est très important. Et aussi, deuxième chose qu'on oublie, c'est que parce que quand on pense vacances, on pense parasol, on pense soleil, on pense National 7, on pense Méditerranée, etc., bien savoir quand même que la Méditerranée n'est devenue une destination estivale que dans l'entre-deux-guerres, aux alentours de 1935. Lancé largement par les villégiateurs britanniques, avaient imposé un rythme qui faisait que dès les premières chaleurs annonçant l'été, ils remontaient vers le nord. La Méditerranée était une mer de suppléance, on y allait en hiver, mais dès qu'il commençait à faire chaud, on remontait vers les mers du nord. D'où Deauville, d'où Trouville, d'où toutes les plages de la Baltique, les plages de Hollande, les plages de Belgique, les plages d'Angleterre, évidemment. Et que, évidemment, le maillot, parce que je suis, et j'approuve totalement, je suis la génération des maillots en laine. Moi, j'ai des souvenirs sur la côte belge d'avoir été me baigner avec avec un maillot en laine comme c'était à l'époque. J'avais 5-6 ans, mais ça m'a traumatisé parce que vous rentrez dans l'eau avec un maillot qui fait 300 grammes, vous en sortez avec un qui en fait presque 2 kilos et en plus il ne sèche pas.
Hein. Donc vous êtes ça va mal, vous paraître vous étonnant, Jean-Didier Urbain, mais j'en ai porté aussi des maillots en laine, oui, je vous assure, dans les années 70. Bon, bref, Audrey Millet, vous montrez dans votre livre que tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, le maillot de bain va suivre et inventer des modes, il va s'alléger. Hein. Peu à peu, on va abandonner ces longues robes de bain très lourdes qui entravent le mouvement. Hein. Ce sont des chemises à manches longues et des pantalons de bain en laine. Hein. C'est pas idéal pour nager. Et puis en 1907, il y a un procès à Boston, aux États-Unis, qui va accélérer la popularité du maillot de bain. C'est la vedette australienne de vaudeville, Annette Kellerman, qui est très connue pour ses plongeons acrobatiques en maillot de bain ajusté au corps. Et elle est arrêtée pour
impudeur,
indécence.
Voilà.
Et là, ça va populariser le maillot.
Absolument. Et c'est une championne, c'est une véritable championne. Alors, on se dit que quand même, à l'époque, la passion mène à la folie, hein, pour enlever ses manches. Parce qu'elle s'est rendue compte que cela freinait sa performance. Donc, elle a enlevé ses manches. Elle avait été influencée par une amie en Angleterre. L'Angleterre était moins pudique que les États-Unis à l'époque. Et elle est arrêtée. Alors, c'est formidable. Le juge décide, il fait jurisprudence, que Madame Kellerman peut porter ce maillot de bain. Et on peut vraiment dire que le maillot de bain, finalement, est né dans un procès, est vraiment né dans un palais de justice.
Et donc, on lui doit beaucoup à cette Australienne, Annette Kellerman. Allez, dans quelques instants, vous saurez comment est vraiment né le bikini et pourquoi on montre moins son corps sur la plage en 2022 qu'en 1982. Et puis, comment bien choisir son maillot de bain selon sa morphologie. Ce sera juste après Pink Martini qui interprète Donde estás Yolanda à 10h27. Martini, Donde estás Yolanda?
Mais qui a envie d'acheter un slip de bain au mois de mars?
Grand bien vous fasse.
La vraie question, c'est qui utilise encore l'expression slip de bain?
Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre?
Maillot. Maillot de bain.
Oui, même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain.
Sur France Inter.
Oui, mais Claude a toujours été très slip.
Et ce matin, on s'intéresse au maillot de bain, un sujet beaucoup moins frivole qu'il n'y paraît. Nous vous aiderons tout à l'heure à le choisir selon votre morphologie. Dites-nous si vous êtes à l'aise avec ce vêtement et si vous éprouvez des complexes physiques quand l'été pointe le bout de son nez. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Alors Audrey Millet, je rappelle que vous êtes historienne, que vous publiez un livre qui m'a vraiment passionné, Les Dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps. Votre intérêt pour le maillot de bain né il y a 2 ans sur une plage, quand vous constatez que nous nous découvrons beaucoup moins, et les femmes en particulier, que dans les années 80-90.
Oui,
et pourtant, la plage est ce lieu de liberté.
Et ce lieu de liberté et d'égalité dans un sens, hein, puisque les hommes et les femmes dévoilent le maximum et cachent le minimum. Et en effet, j'ai vu...
Ça vous frappe, ça, le fait qu'on se couvre davantage qu'il y a une quarantaine d'années.
Oui, parce que c'était pas le cas des hommes. Mmh. Voilà. En fait, les hommes étaient en short de bain, mais les femmes, beaucoup plus recouvertes.
Les hommes ne portent pas plus beaucoup, et je parle sous l'autorité de la spécialiste en style Isabelle Thomas, ne porte quasiment plus de slip de bain à la plage.
Alors le slip de bain revient.
Ah, il revient.
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes qui préfèrent porter de très longs shorts, les shorts de surf qui descendent sous le genou, qui empêchent de bronzer.
Ça va toutes les morphologies, ça?
Non, ça va pas toutes les morphologies. Et dessous, ils glissent un slip, leur slip. Alors il y a la marque du slip apparent, mais c'est souvent les très jeunes qui font ça. C'est pour faire croire qu'ils sont surfeurs, mais le petit maillot de bain short revient.
Isabelle Millet, donc sur le fait qu'on se couvre davantage, que les femmes se couvrent davantage à la plage aujourd'hui.
Alors bon, il y a sans doute une génération de complexes. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle énormément des complexes et de temps en temps, je me demande si on n'en parle pas trop, si on n'insiste pas trop sur la cellulite, les fesses, le ventre, le dessous des bras. Isabelle.
Oui, alors on parle beaucoup des complexes. On parle aussi du body positive, et ça, c'est encore une autre injonction.
Du corps positif.
Du corps positif. Alors, il faut être bien, quel que soit son corps. Il faut, entre guillemets, s'accepter, s'assumer. J'aime pas ce terme de s'assumer. Ça veut dire assumer quoi? Une faute? Ça veut dire qu'on serait pas assez bien. Et si on n'arrive pas à s'accepter, ça veut dire qu'on est nul. C'est, vous avez des formes, vous êtes bien comme ça. Ok, mais il y a plein de personnes. Moi, je vois toutes les personnes que je conseille ont toutes des complexes. Il ne suffit pas de dire aimez-vous pour s'aimer et arriver en sautillant sur la plage. Je trouve que c'est une injonction de plus.
Et Sophie nous dit, le problème n'est pas tant le maillot que la lumière crue qui ne pardonne aucune imperfection. Jean-Didier Urbain, je rappelle que vous êtes ethnologue et sociologue.
Simplement ajouter qu'à l'origine aussi quand même de ce rhabillage en quelque sorte des baigneurs et des nageurs sur les plages, il y a quand même aussi le syndrome australien et la peur du cancer de la peau. C'est pas une illusion, ça a été un vrai trauma. À une époque, on parlait de capital soleil, ne pas dépenser, ne pas trop s'exposer parce que il pouvait y avoir des conséquences dévastatrices sur l'épiderme. Ça fait aussi partie, je dirais, d'une sorte de remédicalisation du rapport à la mer, qui a passé par la thalassothérapie, qui a redonné à la mer une vertu médicale qu'elle avait quelque peu perdue, effectivement, avec l'explosion de la société du plaisir, du naturisme, les années 60, les années de reconstruction, des années de libération, où la nudité s'explique aussi par ça, hein, et le plaisir de se dévêtir, c'est quand même aussi affiché, quand même sa revendication, sa contestation, si quand même, le naturisme, par exemple, effectivement, la séparation entre le nudisme et le textile, c'est que quand même, les naturistes revendiquent un état d'innocence antérieur au péché originel, quoi. La pudeur naît, hein, avec le péché originel. Le naturiste dit on peut vivre à comme on vivait avant le péché originel, c'est-à-dire totalement nu. Il y avait une sorte de contestation politique, idéologique, qui sous-tendait, enfin je veux dire Montalivet, c'est un grand camp naturiste sur l'Atlantique qui a ouvert à la fin des années 50, avant il y a eu l'île du Levant dans l'entre-deux-guerres. Il y a eu toute cette revendication, la nudité s'était aussi portée aussi bien par les hommes que par les femmes, par une revendication d'un droit à un état natif dont on était privé dans une société d'habillés, d'hommes cousus, comme disait Freud, et non plus d'hommes drapés. Et tout ça, ça participe évidemment effectivement aujourd'hui, parce que, je veux dire, il n'y a pas de rupture, il y a quand même des transmissions, même inconscientes, de génération à génération, et de velléité, je dirais, contestataire, et en même temps de peur, de conformisme, et pour revenir à ce que je disais au début, le syndrome australien, cette peur, ce rapport médical à la mère, ce rapport prudent, circonspect, qui justifie au fond un certain rhabillage, que ce qu'on se déguise en surfeur, ou qu'on se démette un bermuda plutôt qu'un main short, etc. Bon, tout ça, ça participe un peu de ce phénomène aussi.
Et Isabelle nous dit, oui, porter un maillot de bain est une épreuve, on est si bien tout nu dans l'eau. Audrey Millet, vous vouliez réagir aux propos de Jean-Didier Urbain?
Oui, la nudité, c'est très important la nudité. C'est ce qui peut gêner effectivement lorsqu'on porte un maillot de bain, parce qu'on se voit peu de temps dans la journée ou dans l'année en soutien-gorge et culotte. Donc cela relève de la sphère privée, aussi d'un rapport à soi. Alors tout nu, oui, avec plaisir, mais effectivement avec une crème solaire, c'est très très important. Et les naturistes de la fin du 19e, en fait, sont sortis de ces villes industrielles là, qui sentaient mauvais, pour retrouver un état de bien-être, pour s'éloigner du brouhaha, des villes, de la puanteur, bien entendu. Mais il y avait différents types de naturisme, plutôt l'élite en France, plutôt les prolétaires en Allemagne, mais on ne pourra que dire aujourd'hui que finalement, même tout nu, on sera toujours habillé d'une crème solaire, faites très attention.
Isabelle Thoba.
Même aujourd'hui, tout nu, on s'épile intégralement. Ça aussi, on n'est plus vraiment, c'est pas le tout nu, tout naturel, à poil. C'est à poil, mais sans poil.
Exactement. Alors avec l'avènement du maillot de bain, de nouvelles injonctions vont apparaître. Il va falloir souffrir pour être belle. Vont apparaître de nouvelles exigences de perfection des corps. Le règne de la minceur féminine va débuter dès le début du XXe siècle. Lors des Jeux Olympiques de 1900, les athlètes féminines américaines vont exhiber un nouveau type de corps. Beau, jeune et athlétique. Un nouveau canon de beauté féminine va apparaître. Sport et régime vont s'allier pour sculpter le corps des femmes, Audrey Millet.
Oui, c'est une nouvelle femme, véritablement, celle qui a adopté la culture gymnique, toute la gymnastique de la fin du 19e siècle. Cette femme également qui porte la nation, cette femme qui porte les enfants de la nation, et on peut connaître, remarquer certains travers, évidemment, sous Hitler, bien entendu. Donc, cette femme forte, celle qui a le corps exactement comme il faut, mince, mais capable d'enfanter. Ce rapport au sport est très 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 important et il va se redévelopper, reconnaître un essor dans les années 80 avec ces fameuses grandes salles de gym où tout le monde se regarde, car il faudra que vous serez en maillot de bain mince, mais tonique et bien musclé. Et là, il y a vraiment des questions sur la morphologie, parce qu'on ne naît pas tous pareils, mais Isabelle Thoba pourra en parler beaucoup mieux que moi.
N'est-ce pas?
Oui, on est tous différents, évidemment, et on s'en rend compte. Peut-être on le réalise pas toujours pendant l'année, parce qu'on se regarde pas. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de miroir ou qui zappent le miroir, qui passent rapidement devant pour surtout pas se voir. Et arriver à la plage, on ne peut pas faire autrement. Et là, on se compare. C'est aussi ça peut être le drame, un des drames de la plage, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, c'est la comparaison.
Voilà. Un corps tonique, sculpté et bronzé. C'est grâce au maillot de bain que le bronzage s'impose. Faut le rappeler que pendant longtemps, l'idéal de beauté était de ne pas avoir une peau hâlée. Mais pour se mettre en maillot de bain, il va falloir renoncer à l'idéal de blancheur.
Oui, c'est ça. Ovid, dans l'art d'aimer, nous explique, donc publié en l'an 1, nous explique que pour être une femme comme il faut avoir le teint pâle et blanc pour inspirer la pitié, donc l'amour. Bon, voyez un petit peu le rapport. Le développement des sciences médicales, qui se rend compte que la mer, c'est bon pour le corps, la nage, la natation, la gym, et le soleil, bon pour le moral également, va mettre au goût du jour ce bronzage qui finalement devient alors l'extrême de la blancheur. La blancheur, vous ne travaillez pas, vous n'aviez pas un métier dehors, vous ne travaillez pas, mais finalement, lorsque vous êtes bronzé, vous montrez que vous passez toute l'année en vacances sur votre yacht, bien entendu. Donc c'est c'est un marqueur, un symbole, hein, évidemment, d'ostentation.
Le maillot rétrécit peu à peu au cours du XXe siècle. Les ligues de vertu ne vont pas rester inactives. Hein. On assiste à des croisades moralisatrices. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a une photo qui montre un monsieur. C'est un policier à Washington, au bord du bassin de Tidal. Le policier Bill Norton, qui mesure la distance du genou au costume de bain pour s'assurer qu'elle fait moins de 6 pouces, c'est-à-dire 15 centimètres. On est en 1922.
C'est ça. Les nations vont devoir choisir ou les municipalités. Donc c'est là, là il y a un combat. Est-ce que vous êtes moderne et est-ce que vous acceptez ces nouvelles mœurs, ces filles qui se dévoilent, ou est-ce que vous restez, vous êtes conservateur tradi? Alors, par exemple, l'Italie, l'Espagne, le Portugal vont interdire au début ces petits maillots. Et aux États-Unis, donc sur le système de fédération, un choix se pose aux États. Et Los Angeles, qui est vraiment un trou paumé qui ne ressemble à rien, la municipalité se dit non, nous on fera pas partie des conservateurs, on va mettre des filles partout sur les murs en maillot de bain, faire de la pub sur notre ouverture d'esprit, et comme ça on va gagner. Et effectivement, l'immobilier se met à monter, les touristes affluent et Los Angeles est né.
Et le policier Bill Norton, hein, qui mesure la distance du genou des costumes de bain, il aurait pas du tout aimé ça. Le bikini fut inventé en 1946 par un ingénieur automobile français reconverti dans le tricot. C'est une bombe dans le monde de la mode à l'époque. Mais attention, hein, le maillot de pièce, il n'est pas vraiment né en 1946. Hein. Il est né en 1932.
C'est ça, on l'a durant l'entre-deux-guerres et c'est un beau maillot. C'est un maillot qui sculpte le corps, il y a des coutures hyper bien placées. Je l'adore, vous l'aurez compris.
Sauf que il ne montre pas le nombril.
C'est ça. Et alors, le fameux bikini qui arrive, hein, cette bombe anatomique, montre le nombril. Ce qui signifie qu'il montre
ça,
le nombril, scandale, le ventre, la maternité, le cordon ombilical. Bon, c'est comme si on vous avait vu dans une chambre à coucher, quoi.
Et la rédactrice de mode de Diana Vreeland dira que le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe A. Est-ce que le grand public va facilement accepter ce bikini?
Pas immédiatement, hein. Là c'est vraiment la théorie de l'imitation. Le bikini, on l'a vraiment dans les années 70, c'est-à-dire après la mai 68, la révolution sexuelle, et au même moment, hein, tous ces féminismes, mais aussi ces hommes, hein, qui veulent que les femmes soient égales également, avec l'avortement, évidemment la pilule, la permission d'avoir la possibilité d'avoir un compte en banque sans demander à son mari.
Alors, les années 1950 vont modeler un nouveau corps. Je cite l'actrice hollywoodienne Jane Mansfield, hein, qui liste ce dont une femme a besoin pour se sentir bien en maillot. Je la cite, un ventre plat, une poitrine ferme, un joli derrière. Et alors là, vous êtes dans le coup, dit-elle. Le problème, Isabelle Thomas, c'est que peu de femmes répondent à ce type de beauté.
Ah oui.
Canonique.
Très peu de femmes. On a toujours quelque chose à se reprocher, une imperfection, même si elle n'existe pas. En tout cas, on la voit, hein, on voit ce qu'on croit. Et donc, arriver en maillot de bain sur la plage, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus cette seconde peau qui est le vêtement qui peut cacher cette peau qu'on n'aime pas, cette première peau. Là, on se dévoile.
On assiste. À l'anxiété de l'été, hein, cette peur de ne pas arborer le corps idéal à exhiber. Alors, pouvez-vous nous aider à choisir le bon maillot selon sa morphologie? Comment trouver le maillot de bain qui nous va? Par exemple, quand on n'a pas beaucoup de poitrine.
Alors déjà, pour tout le monde, le maillot qui nous va, c'est celui dans lequel on se sent très bien. Donc, c'est important de prendre du temps pour se faire plaisir, pour acheter un maillot qui a une jolie couleur, qui a un imprimé, ça va participer à l'estime de soi. Si on ressort un maillot de bain tout fripé, avec des élastiques qui ne maintiennent rien, qui perd toute sa fermeté dans l'eau, on ne risque pas de se sentir bien. Donc déjà, prendre le temps de choisir un bon maillot et se dire, plus je cherche à cacher ce que je n'aime pas et plus on le voit.
Donc, par exemple, si on n'a pas
autant se découvrir.
Si on n'a pas beaucoup de poitrine, par exemple, alors, quel si type de maillot de bain faut-il choisir?
Il faut éviter de porter un maillot avec des grosses coques couvrantes qui fait la même poitrine que tout le monde et personne n'est dupe. Si on veut un peu étoffer sa poitrine, on peut jouer avec des petites fronces, avec des petits jeux de volant. Donc, finalement, on met l'accent sur ce qu'on n'aime pas, mais on l'étoffe autrement.
Et si les seins ont besoin d'un bon maintien?
Oui, ça c'est important. C'est vrai que c'est aussi important pour la santé, pour le maintien, c'est de prendre un maillot, souvent celui qui va à beaucoup de personnes, c'est le maillot foulard qui se noue.
C'est quoi?
Le maillot foulard se noue derrière le cou. Et c'est important qu'il ait des bandes assez larges, qu'il y ait une accroche bien large. C'est sûr qu'un petit maillot en crochet avec des petites ficelles ne va pas maintenir grand-chose. Et surtout, il faut prendre un maillot à sa taille. C'est très important de ne pas regarder que l'étiquette, mais de changer, d'essayer plusieurs maillots, la taille que l'on pense faire, la taille qui est sur l'étiquette, et d'essayer une taille de moins, une taille de plus. Et très souvent, c'est important de prendre, notamment pour les culottes, une taille de plus.
Que faire si on est, quand on est une femme, complexée par sa culotte de cheval? Quel type de maillot vous
Alors, surtout pas un maillot trop couvrant qui cache le pli sous fessier. Ça fait une sorte de masse, ça fait un rectangle dans le bas du corps, et finalement, on voit que ça. Très souvent, on se camoufle, on met du noir, donc le noir sur une peau blanche, ça met encore plus l'accent sur ce qu'on veut cacher. C'est prendre un petit shorty qui est, ou alors un petit maillot avec des liens sur le côté, qui sera un petit peu, qui ne va pas serrer, qui ne va pas marquer encore plus de bourrelet. Attention au maillot avec des élastiques qui marquent beaucoup. C'est préférable de prendre le maillot qui se noue sur le côté avec des petits nœuds.
Et que faire si on complexe à cause d'un petit ou d'un gros ventre, d'un petit bedon ou...
Alors très souvent on prend un maillot une pièce, c'est délicat parce que justement ça ne cache pas le ventre. On peut compter sur un bas de maillot qui se roule ou avec des petites fronces sur le ventre ou un drapé sur le ventre qui va le cacher. Et dans la journée, on peut le redescendre quand on se met sur le dos, on peut redescendre la culotte si on veut faire bronzer son ventre. Mais le maillot, une pièce, n'est pas forcément une bonne idée, contrairement à ce qu'on pense.
Et pour les hommes, que conseillez-vous, hormis le slip de bain façon Thierry Lhermitte dans Les Bronzés, qui semble revenir à la mode, quand on est petit et trapu, par exemple, qu'est-ce qu'il faut mettre comme type de maillot?
Alors, le maillot qui va... maximum de personnes, c'est le petit short, le petit boxer.
Ah, le petit boxer.
Ça va à pas mal de morphologie. Alors, il faut bien sûr essayer, mais ça peut être un maillot. Attention au ventre aussi. L'ajuster à la taille de son ventre. Quand il descend trop bas, avec le petit ventre qui passe au-dessus, c'est pas forcément.
Et quand on est petit, mieux vaut éviter les longs shorts
qui descendent trop bas. Ça diminue, ça fait une petite jambe, un petit mollet.
On parle beaucoup d'injonctions, Audrey Millet, concernant les femmes, mais les hommes aussi, et on vous en parlait pas beaucoup dans votre livre, sont de plus en plus touchés par ces injonctions, c'est-à-dire avoir les abdos en tablette de chocolat, les épaules là, la taille fine. De plus en plus de jeunes hommes sont, atteints par des complexes, parce qu'ils ne correspondent pas à de nouveaux canons de beauté.
Oui, vous avez raison, on parle trop peu, alors je pose la question pourquoi ? Peut-être que quelqu'un a la réponse de ces complexes masculins et qui en fait vont se développer. Et se développe, c'est déjà prouvé, hein. Il y a beaucoup d'études psychologiques et psychiatriques à ce sujet, notamment sur l'anorexie mentale, hein, depuis les années 2000. C'est-à-dire que l'industrie des cosmétiques aussi est en train d'aller vers eux, l'industrie des régimes, hein, de la pharmaceutique également. Et effectivement, on peut s'inquiéter. Par exemple, le slim, il fallait être quand même très très mince pour entrer dans un slim.
Un slim.
Oui, il y aura de plus en plus de complexes masculins. Pour quelle raison? Parce que cela crée un nouveau marché masculin pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique.
Isabelle Thomas.
Oui, il y a aussi beaucoup d'hommes, enfin non pas beaucoup, quelques hommes, qui choisissent des maillots avec une coque. Il n'y a pas que les maillots, il n'y a pas que le rembourrage en haut pour les femmes, il y a aussi le rembourrage en bas pour le... pour les hommes.
Mmh. Et ça, c'est sans doute l'influence des images pornographiques aussi qui peut complexer certains hommes. Dans un instant, hein, si vous souhaitez tout de même perdre du poids pour rentrer dans votre maillot de bain, eh bien, le docteur Arnaud Cocolle vous dira dans un instant si c'est vraiment une bonne idée. Ce sera juste après La femme qui interprète va à 11h10. Interprété va.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et ce matin, on s'intéresse au maillot de bain, un sujet beaucoup moins frivole qu'il n'y paraît. Jean-Didier Urbain, je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue et vous vouliez ajouter un complément à notre conversation concernant les complexes qui touchent de plus en plus d'hommes.
Je pense qu'on a peut-être d'abord oublié aussi une image forte, une mythologie très forte, qui est le mythe de Tarzan, quand même.
Ah oui.
Vraiment un héros aquatique, lui aussi, très médiatisé au cinéma, avec le couple Jane, enfin bon. Mmh. Et par voie de conséquence aussi, cet aspect athlétique, je dirais. On a parlé des naturistes en Allemagne. Mmh. Les naturistes en Allemagne, il y avait d'une part, effectivement, un aspect ouvrier, mais il y avait aussi un aspect très militant, et même pas pour le meilleur, puisque on sait qu'une partie de la jeunesse hitlérienne a trouvé dans les rangs des naturistes allemands, germanistes, pan-germanistes, pas mal d'adeptes, parce que le naturiste, c'est un peu ce rêve de pureté, de retour aux origines, de noblesse, enfin, etc. Mais ce que je voulais surtout noter, je pense qu'il y a deux modèles de masculinité qui s'affrontent à travers, y compris le maillot de bain. C'est comment c'est Clavier, je crois, dans les bronzés aussi. Lui, il est plutôt du côté, vous voyez, il veut le faire dans le genre Dionysos, avec la pilosité débordante, etc. Il est dans le modèle viriliste, alors que vous avez maintenant effectivement sans doute un côté plus apollinien, plus tourné vers la beauté, l'esthétique, voire une féminisation, enfin, du modèle masculin. Bon, on est en plein dedans, effectivement. Donc une sorte de porosité des genres et des sexes qui font que il y a d'autres impératifs, d'autres injonctions, je dirais, qui viennent se greffer sur la pratique du maillot de bain chez les hommes. Le retour, effectivement, au slip minimal, à mon avis, tient à cette valorisation du corps, parce qu'effectivement, on met bien en évidence absolument la totalité du corps, et le ventre y compris.
Et Laurent nous écrit, beaucoup d'hommes ne sont pas sculptés comme des dieux et ressentent de la gêne et un malaise avec cette histoire de maillot que vous abordez. Alors c'est vrai que nombre d'entre nous vont avoir envie d'aborder la meilleure image possible de soi sur la plage, hein, avec ce fameux summer body. Est-ce que c'est une bonne idée, docteur Arnaud Cocol, bonjour, de perdre 3 ou 4 kilos en trop avant de se remettre en maillot dans un peu plus d'un mois? Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Est-ce que vous conseillez de s'imposer un régime drastique pour entrer dans son maillot de bain, ou alors pas du tout?
Alors, perdre 2-3 kilos d'ici un mois, c'est encore tout à fait acceptable et faisable. Par contre, la deuxième partie de votre interrogation, c'était un régime drastique, là, formellement contre. Parce qu'il n'est pas question de tomber dans la restriction qui est le meilleur pourvoyeur, en fait, de stockage de graisse en excès par la suite. C'est-à-dire, si vous avez un problème de bouée de sauvetage qui vous pose des problèmes... Et avec le syndrome de la bedaine, il est le meilleur moyen d'accentuer cette bedaine, ça va être de passer en restriction alimentaire qui est complètement contre-productif. Donc 2-3 kilos par mois, c'est tout à fait acceptable. Et moi, étant contre les régimes, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire manger, c'est Christophe André qui le dit régulièrement, c'est manger sans distracteur d'attention, en pleine conscience, etc. Donc c'est prendre le plaisir déjà alimentaire avant de chercher déjà à se restreindre et à s'interdire des aliments qui vont nous frustrer et qui vont déclencher des troubles du comportement alimentaire, c'est tout ce que ça va faire.
Ouais, et vous êtes un grand adepte de la mastication, ça peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que la mastication permet de manger en pleine conscience et permet de manger beaucoup moins. Faites l'expérience de manger un repas en mastiquant vraiment 10 à 15 bouchées, vous verrez que vous allez beaucoup moins manger. Donc mécaniquement, vous allez perdre du poids. Si vous faites un peu de sport à côté, bien sûr.
Ah oui, parce qu'on gloutonne. Nous sommes dans une génération qui mange mou. Regardez, le plat préféré des Français, c'est le hamburger. Le hamburger, c'est l'exemple typique de la viande hachée avec un pain plus ou moins de mie. Donc, ils s'avalent rapidement, en gloutonnant pour certains, donc ce qui transforme les mangeurs en outre-mangeurs. Vous voyez, donc on exagère, donc on est dans l'hyperphagie, la tachyphagie. C'est-à-dire l'hyperphagie, on mange trop, et la tachyphagie, on mange trop vite.
Et c'est vrai que de manger trop vite peut entraîner évidemment divers désagréments, comme les ballonnements, bien évidemment.
Peut-être... Ah, bien sûr.
Peut-être avant l'été, peut-être se mettre à une diète, enfin diète entre guillemets, parce que c'est pas un régime, mais à une alimentation de type méditerranéenne peut-être, plutôt que de faire un régime. Quelles sont les bases de ce régime méditerranéen, de cette diète, hein, non pas d'amaigrissement, mais en termes d'aliments divers à base de végétaux, de céréales complètes.
Complètement. La diète méditerranéenne est tout bon de toute façon, parce que c'est comme vous le dites, c'est pas un régime, c'est un mode de vie, une hygiène de vie. Donc c'est une pensée différente et que nos ancêtres avaient et qui avaient tout bon dans ce sens. Donc c'est réhabiliter les céréales, les légumineuses. Manger de la viande, mais peut-être en quantité moindre et dans ce cas-là de meilleure qualité. Donc on évite tout ce qui est hyper industrialisé, donc tout ce qui est ultra transformé, évidemment on évite ça parce que ça faisait pas partie du régime méditerranéen initial. On va prendre du thé, on va prendre un petit peu de vin modérément, donc toujours avec parcimonie, c'est 5 fois par semaine, pas plus, et de façon très modérée. Et sinon, on va être avec les fruits également secs, donc on réhabilite ou on introduit dans son alimentation tout ce qui est amandes, noix, noisettes, une poignée par jour, une poignée fermée, ça c'est excellent pour la santé. Des poissons également qui sont en pêche durable et qui sont variés, c'est la diversité qui prime. Et mettre des couleurs, c'est-à-dire mettre des fruits, des légumes, avec de l'huile, on préconise l'huile d'olive, mais c'est pas le chef de file unique. L'huile de colza et l'huile de noix sont très intéressantes également, car pourvoyeurs d'oméga 3 qui font partie du régime méditerranéen.
Merci beaucoup, docteur Arnaud Cocol, pour vos conseils. Audrey Millet, on termine avec vous. J'ai noté cette dernière phrase dans votre livre. Le maillot de bain comme symbole féministe, et pourquoi pas?
Oui, et pourquoi pas? Et je pense que Isabelle Thomas et moi, on sera d'accord. Décapitalisons les corps, hein, et puis apprenons à être et à arrêter de paraître. On sera super belles dans notre maillot de bain.
Merci beaucoup Jean-Didier Urbain. Merci Isabelle Thomas d'être venue dans cette émission. Et merci beaucoup Audrey Millet. Je recommande 1000 fois votre livre « Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps ». C'est publié aux éditions Les Pérégrines. Demain, grand bien vous fasse loisir.